la table des gourmands. Jusqu'à 19h.
On dit du chocolat qu'il n'y a pas meilleur euphorisant, qu'il est énergisant, aphrodisiaque, qu'il contient de la sérotonine, qu'il diminue le stress, provoque un sentiment de bien-être. On dit de lui qu'il est également bénéfique pour le système cardiovasculaire, bon pour les artères, efficace contre l'hypertension. Il n'y a donc aucune raison de s'en priver, que de bonnes excuses pour en manger. La plus ancienne trace de chocolat ne provient pas du fond d'une tasse, mais d'un papyrus. Les Égyptiens l'auraient découvert il y a de cela 4000 ans. À l'ère précolombienne, les Mayas et les Aztèques l'ont rendu comestible, mais c'est le Hollandais Van Houten qui breveta sa première recette de chocolat en poudre en 1828 et qui fabriqua la première tablette de chocolat 20 ans plus tard. Notre invité en fabrique depuis des années dans son atelier de Glovelier. Il n'a rien d'un Égyptien ni d'un Aztèque. Pas besoin de lui donner des ananas en échange de noix de coco. Et non, notre invité, ce n'est pas Willy Wonka, mais ça aurait pu. Notre invité, c'est Bernard Collomb, artisan chocolatier. Il est ce soir avec nous pour parler, bien évidemment, de chocolat. Bernard, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Sandra.
En histoire, il se dit de nombreuses choses concernant le chocolat, surtout sa provenance, mais surtout sa découverte. Et selon plusieurs encyclopédies, ce serait Christophe Colomb, le même qui découvrit l'Amérique, qui serait le premier Européen à avoir découvert le chocolat. L'histoire raconte qu'il l'aurait même confondu avec des crottes de chèvre, ce qui n'est pas votre cas. Par contre, vous aviez un nom prédestiné pour tomber dans la marmite. Alors petit, comment était votre rapport avec le chocolat ?
Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de rapports finalement. Le rapport que j'ai vraiment un bon souvenir encore, c'est-à-dire que voilà, les 4 heures, on les prenait toujours tout simplement. On avait des plaques de chocolat avec une pomme et du pain, tout simplement.
Et vous le dégustiez déjà ? Vous aviez un rapport différent des autres, au lieu de vous empiffrer, par exemple, comme on a tendance à le faire à cet âge-là. Est-ce que vous aviez déjà cette envie de le déguster, cette envie de savourer ce chocolat ?
Alors, c'est clair que quand on est gamin, on préfère le chocolat au lait, le blanc, mais j'étais pas du tout chocolat noir, comme bien des enfants actuellement. Hein. Mais on le laissait fondre en bouche, effectivement. On n'avait pas non plus une tablette à manger, c'était des petits carrés aussi. Donc, on prenait le temps de le manger, de l'apprécier.
Et comment elle est venue l'envie de devenir chocolatier ?
Ah, c'est une longue histoire, là.
Mais on vous écoute, on a le temps.
Bon, il faut dire que quand j'étais gamin, là aussi, j'allais faire un petit peu les croissants, donc chez mon oncle, hein, au Canard Doré.
À Lausanne ?
Non, c'était à La Neuville.
D'accord.
Et puis, c'est là qu'est venu un petit peu le métier. Bon, pourtant, on ne travaille pas le chocolat chez lui, mais c'était plutôt un peu de la pâtisserie, les croissants le matin. J'allais pendant mes vacances, justement, pour m'aider. Et puis ensuite, ça m'est venu parce que je me suis dit, je crois que j'ai quand même un peu la fibre de manuel, l'alimentation et tout. Je me suis dit, il faut quand même que je me lance là-dedans. Et puis effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec le chocolat.
Parce qu'il n'y a toujours pas d'apprentissage de chocolatier ?
Non, pas en Suisse, justement.
Donc si on veut faire chocolatier ?
Ouais. Il faut passer par pâtissier, confiseur. Effectivement.
Donc c'est parti de là, cette envie de travailler le chocolat. Mais c'est devenu plus tard la passion avec le temps.
Oui, tout à fait.
Grâce au voyage.
Grâce au voyage, oui, tout à fait. Avec la marine, enfin voilà. Après, j'ai aussi travaillé en tant que pâtissier là-dessus. Avec
la marine marchande.
La marine marchande, oui, tout à fait. Donc, ça m'arrivait aussi de faire un peu de pâtisserie, de faire de la boulange aussi. Et puis, les gens étaient très contents, quoi, bien sûr. Mais le chocolat m'est venu par la suite, au fait. C'est vrai que j'ai fait un apprentissage. Et puis, en faisant l'apprentissage de pâtissier-confiseur, on traite un peu le chocolat, mais pas assez, pas suffisamment à mon goût. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille chez un spécialiste. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Donc, je suis parti sur Genève. Et puis là, j'ai appris énormément, quoi. C'était... Voilà, c'est un gars, c'est, C'était un peu mon père spirituel. Il est décédé l'année passée, malheureusement, mais quand même avec un certain âge. Il avait quand même 93 ans. Mm-hmm. Mais il m'a laissé énormément de savoir et puis de passion dans les mains.
Donc c'est un peu comme si vous aviez fait un petit apprentissage, en fait, chez lui. Parce que je pense à ceux qui nous écoutent qui auraient envie de devenir chocolatier. On l'a dit, hein, faut qu'il passe par où vous êtes passé, donc pâtissier, confiseur.
Voilà, tout à
et
fait.
Et puis ensuite, c'est quand même bien, il y a quand même des possibilités pour aller un petit peu travailler le chocolat. Et puis, oui, vous en prenez vous-même ?
Je prends de temps en temps des stagiaires, comme ça m'arrive effectivement, pour leur donner un petit peu aussi l'envie par la suite de pouvoir aussi. Mais on voit qu'il y a déjà des fines... Il y en a qui sont bien dans les mains. On voit qu'il y a c'est des petits artistes déjà. Ouais.
Alors, vous avez beaucoup voyagé, hein, Bernard. Vous en avez beaucoup goûté également, hein, des chocolats, du noir au lait, de couverture, aux noisettes, à la damascine. On va parler de toutes ces saveurs que vous avez découvertes, que celles que vous avez goûtées, celles que vous proposez. Alors, en tant qu'artisan chocolatier, pour faire un bon chocolat, l'important en premier lieu, c'est la matière première. Hein. Le chocolat a également ses grands crus, avec des noms qui résonnent, hein, comme les grands crus. Il y a le Trinitariol, le Forasterol, le Criollo. C'est quoi qui différencie ces crus, en fait, de chocolat ?
Ben, tous ces crus, c'est beaucoup la provenance aussi.
Mm-hmm. Donc, ils viennent d'où, en règle générale ?
En général, beaucoup d'Afrique, hein. Donc là, on trouve beaucoup plus du Trinitario, du Forastero, et puis plus on va plutôt dans le fin fond de l'Amérique du Sud, là, on trouverait beaucoup plus du Criollo, donc c'est quand même un grand cru, effectivement, donc c'est de plus en plus cher aussi. Pour les artisans, c'est pas évident non plus, parce que de plus en plus, hein, c'est une matière qui vient chère, et puis après, on peut pas tout le temps changer les prix non plus, donc voilà, il faut s'adapter, mais il y a vraiment des belles choses à découvrir dans le chocolat.
Et puis, donc celui le plus haut, c'est le fameux Criollo.
Criollo, ouais, tout à fait.
Il a un surnom, celui-là, mais je me rappelle pas. L'or du chocolat, non, on l'appelle pas comme ça.
Je crois pas, non, le Criollo. Moi, je l'ai toujours appelé Criollo. Grand cru, voilà, dans les 65-70%, on peut l'avoir.
Alors, quand vous le recevez, ce chocolat, il est sous quelle forme ?
Alors, on peut l'avoir sous forme de petits galets, de petits carrés, de gros pains, de gros pavés en chocolat, qu'on peut aussi hacher avant de mettre dans la tempéreuse. On peut l'avoir sous différentes formes, et puis bien sûr, maintenant, on peut l'avoir vraiment en petits morceaux pour justement faciliter le travail des artisans. Ça, c'est une bonne chose.
C'est vous qui le demandez ou bien c'est non, tel chocolat, il est en plaquette, tel chocolat, il est... ou bien
Tout à fait, on peut le trouver comme ça facilement.
Sous toutes les formes que vous avez envie.
Tout à fait.
Et est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à travailler qu'un autre ?
Ah, je dirais que le chocolat noir est quand même plus facile que le blond, hein. Effectivement. Le noir est plus facile.
Oui, alors, pour l'avoir travaillé en mousse, effectivement, il est moins soutenu, le blanc, mais le noir, il est plus facile à travailler, à mouler, tout, alors qu'il est dur.
Mais il y a beaucoup de beurre de cacao dans le chocolat noir. Par contre, il y a moins de sucre, hein. Voilà, donc il est plus malléable, alors que le blond, il se travaille aussi qu'à 28 degrés. On ne peut pas aller beaucoup plus dans la température, parce qu'après, ça devient compliqué. Il y a trois chocolats, hein, bien sûr, trois couvertures, blanc, lait, noir. Oui. Et le noir, on peut aller effectivement jusqu'à facilement 32, avoir presque 34 degrés suivant. Mais il ne faut pas se louser, ouais, c'est le cas dit.
La table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Et ce soir, à la table des gourmands, on parle d'une gourmandise universelle. Et pour ça, on est en compagnie de Bernard Collomb, chocolatier à Glovelier. Bernard, on a parlé tout à l'heure donc, des différents chocolats à travailler. Il y a le noir, il y a le chocolat au lait, il y a le chocolat blanc. Vous avez dit que le noir était plus facile à travailler, le plus plaisant en tout cas, le plus délicat, le blanc. Et vous étiez en train de parler, juste avant les informations, de température et qu'il y a des températures qu'il ne faut pas aller au-delà. Mais il se passe quoi donc?
Il y a déjà le tempérage qui est très important, c'est-à-dire quand on a une couverture, hein, comme on l'appelle si bien.
Oui, le chocolat de couverture.
Voilà, c'est ça. Hein. Parce qu'au fait, c'est ce qui va enrober l'intérieur, la ganache. Hein. Donc on l'appelle la couverture. C'est un joli terme, en fait, aussi. Hein.
Alors,
ce qui peut se passer, justement, ouais. Donc, en revenant au tempérage, c'est que ce qui est très important, c'est déjà de chauffer son chocolat à peu près à une température de 45 degrés. à 50, mais pas au-delà, parce que ça pourrait casser les cristaux de cacao à l'intérieur.
Oui.
Donc, il faut faire très attention. Puis ensuite, le but, c'est de redescendre la température du chocolat à peu près à 20, 25 degrés pour resolidifier les cristaux de beurre de cacao. Puis ensuite, on va remonter gentiment jusqu'à 28 degrés. Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le chocolat blanc, et 30, 32 pour un chocolat au lait, et voire 32 à 34 presque pour un chocolat noir. Donc, si on ne fait pas, si on ne procède pas à ce tempérage, on arrivera à un chocolat qui va devenir terne, gris. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'on recherche, c'est surtout le cassant du chocolat. Et puis, le brillant, c'est ça qui va faire la beauté du praliné, en fait.
Alors, il n'y a pas que les grands crus, qui portent des noms. Le chocolat aussi a ses appellations.
Alors ça vous l'aurez. Jérôme, il ne va pas vous louper. Hein. Je vous dis tout de suite.
Oui. Alors, il y a donc le je dis toujours faux celui-là, le Gyeongju-ja, le Gyeongju-ja.
Gyeongju-ja, oui.
Gyeongju-ja, le Nyangbo, le Manjari, le Tanariwa. Est-ce qu'on, quand on est chocolatier comme vous, est-ce qu'on peut donner le nom qu'on veut à son chocolat?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, tous les grands crus. J'y suis arrivé, moi, quand même. Non, on peut donner un nom à ces pralinés, c'est ça qui est magnifique. Parce que justement, après, dans ma petite vitrine, là, au magasin, pour chaque petit praliné, chaque truffe, ils ont un nom différent de par mes voyages, de par quelqu'un que j'ai aimé. Puis voilà, ils se retrouvent plantés dans mon chocolat.
Vous avez fait vos devoirs, Bernard. Vous êtes venu avec une recette que j'ai sous les yeux. Mais vous qui nous écoutez, mais d'où vous êtes? Mais vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Alors, c'est charmant. Il y a plein de petits chocolats que vous avez confectionnés avec vos petites mains et votre grand cœur. Et elles seront donc, ces petits chocolats, ils seront demain sur la page de la table des gourmands. On les mettra en photo. Donc, c'est la recette que vous avez apportée. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, c'est vraiment c'est une grande première, parce que c'est vrai que c'est une ganache, c'est un praliné que j'ai fait spécialement pour vous. Voilà.
Merci. Ah,
je sais que vous aimez bien le chocolat noir, il paraît, c'est le Père Noël qui m'a dit. Donc, je les ai appelés la bouchée du Père Noël aux épices.
Eh bien, voilà. Et voilà.
Les épices, ce qui est bien, c'est que c'est des épices qui viennent de la route des épices. Pour pas le citer, parce que je trouve que ça vaut là quand même la peine. Je vais pas spécialement les chercher jusqu'à Lutry, mais c'est quelqu'un que j'ai connu récemment, il y a à peu près une année de ça. Et puis, donc elle me concasse, par exemple, là, c'est vraiment les épices de Noël. Donc j'ai mis donc de la cardamome, gingembre, clou de girofle, coriandre et cannelle. Je mets donc pas d'anis, parce que l'anis est très difficile à travailler, puis ça pourrait éventuellement passer par-dessus toutes ces épices. Donc l'anis, vous pouvez la laisser de côté sans autre. Par contre, quand vous allez goûter les pralinés, vous allez retrouver des petits morceaux d'épices à l'intérieur. C'est pas des épices qui sont tout finement broyées. Il y a encore des petites chutes, des petites choses qui sont sympas quand on va croquer dedans. On aura tout d'un coup un petit goût de gingembre qui va venir. Il y aura de la coriandre, un cardamome. C'est magnifique, quoi.
Eh bien, en tous les cas, un grand merci. On la retrouvera, cette recette, la recette complète, sur la page de l'émission de la table des gourmands. Alors, vous parlez de ce chocolat aux 5 épices, si je ne m'abuse.
Oui, 5 épices, oui.
Aux 5 épices. On découvre justement avec le temps que le chocolat, les goûts évoluent. Hein, on a au piment, au poivre, au gros sel, au curcuma. Quel est le mélange que vous avez goûté pour vous qui est le plus intense?
Moi, je trouve qu'il y a des mélanges qui sont très astucieux. Donc, justement, surtout avec les épices, on peut faire des mélanges qui sont vraiment magnifiques. Par exemple, avec non seulement avec toutes ces épices de Noël. Bon, je les travaille pas systématiquement toute l'année, mais dans une période bien précise comme celle-ci, c'est vraiment superbe. Après, il y a bien sûr il y a la tonka, il y a de la baie rose. On peut travailler avec la fleur de sel de Guérande, avec tout plein de il y a plein de possibilités, le piment d'Espelette, du piment jamaïcain, il y a des choses. Et les gens m'en font part aussi, ils me disent, ben voilà, vous pourriez peut-être travailler quelque chose d'un peu plus fort. Alors je sélectionne, et puis pour ceux qui n'ont pas trop envie d'épices, ben j'en mets peut-être un peu moins. Donc on arrive toujours un peu, les gens arrivent à s'adapter aussi par rapport à la demande, au fait. Hein. Enfin, c'est moi qui m'adapte aussi. Mais
est-ce qu'il vous est arrivé de faire des associations qui n'allaient pas du tout ensemble, faire des tests et là vous vous dites non, mais ouais, non,
alors j'ai fait effectivement. Je me suis un peu, comme vous avez dit, un peu loosé là tout à l'heure. avec par exemple avec de l'huile de truffe bianco, hein, ouais. Alors là j'en avais mis un tout petit peu trop, là, ça devait être l'année passée, il y a 2 ans en arrière, puis là j'ai un peu réduit un peu là, les petites gouttes d'huile de truffe là, parce que c'est quand même assez intense, assez fort, donc ça fait que maintenant j'arrive à quelque chose de plus sympathique quand même.